L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Nous allons lire de nouveau le passage que nous avons considéré la semaine dernière. Nous n'avons pas eu le temps de voir tous les versets déjà. Et de plus, c'est un passage tellement riche qu'une vie ne suffirait pas à l'épuiser dans le sens de l'exposer et de le comprendre. Lisons ensemble les versets 15 à 20 de l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Il parle donc de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, et il dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous arrêterons ici. Beaucoup de commentateurs pensent qu'en fait, ces versets 15 à 20 constituaient un hymne à la gloire de Jésus-Christ. Différentes raisons, le parallélisme, le fait que ça semble rimer, et que ce soit à l'origine un poème ou pas, c'est une merveilleuse description de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la semaine dernière, je demande pardon si je me répète un peu, c'est difficile de ne pas le faire. Sachant, c'est vrai que ce que j'ai dit la semaine dernière grâce à Craig, c'est en ligne et donc vous pouvez vous y reporter. Mais la meilleure façon de parler de Christ, c'est pas d'attaquer les faux dieux que l'on nous présente tout autour, que ce soit l'agnosticisme, l'athéisme, dire que tout est arrivé par hasard, ou qu'en fait le vrai Dieu, le vrai prophète, c'est Mohamed, ou que la vraie solution, c'est le Dalai Lama et le bouddhisme et la méditation, le sourire, les robes rouges, safran, toutes ces choses. On peut avoir tendance, et ceux qui me connaissent savent que j'ai malheureusement cette faiblesse de m'emporter quand je parle de choses qui me touchent au cœur. Et je dois confesser que quelquefois, lorsque je rencontre des Mormons, je ne suis pas très semblable à Christ. J'ai de la colère et je leur montre qu'ils ont tort. Je leur montre que leur prophète ou fondateur Joseph Smith était en fait quelqu'un qui avait eu des illusions, qui avait eu ou qui avait raconté des choses malhonnêtes. Et le Seigneur me rappelle que c'est pas en critiquant, en mettant en bas les autres religions qu'on va faire avancer la cause du royaume de Jésus. Il suffit de parler de lui. Et lorsqu'on parle de lui tel qu'il est, les autres choses pâlissent en comparaison. Parlons de la vérité, ne parlons pas, n'attaquons pas les mensonges, annonçons la vérité. Vous connaissez la fameuse analogie qu'en fait, lorsque on veut entraîner des personnes à reconnaître les faux billets de banque, on ne leur montre pas tous les faux billets qu'on a pu récolter depuis 10 ans en leur montrant comment ils sont faits, quelles sont les différences avec les vrais billets, on leur apprend simplement à manipuler des vrais billets. Et si vous avez l'habitude de toucher dans vos mains des vrais billets, dès qu'il y a un billet qui est faux, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et de la même façon, il s'agit simplement de connaître la vérité sur Jésus-Christ, de la connaître pour que dès qu'on vous parle d'autre chose, vous disiez, il y a quelque chose de différent là, c'est pas authentique. Et ce passage nous présente Jésus-Christ d'une façon glorieuse. Nous avons commenté les quelques premiers versets, qu'il était l'image du Dieu invisible. On a dit que invisible, ça ne veut pas dire imaginaire, comme le croient beaucoup de monde qui nous entoure. Ils pensent que Jésus-Christ, oui, il est imaginaire aussi bien que le Père Noël. Et là aussi, si vous regardez cette méditation quotidienne au mois de décembre, on commence par dire que le Père Noël, son succès, entre guillemets, ça montre que quelque part nous aspirons à à rencontrer quelqu'un de bon, de généreux. Et c'est pas ce personnage imaginaire, même s'il est basé sur une vérité historique d'un certain Nicolas, Saint Nicolas. Il est appelé dans l'Église catholique et dans certaines églises, qui s'était montré généreux avec les gens qui l'entouraient. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors les témoins de Jéhovah utilisent ce verset pour dire qu'il est né, donc il n'a pas toujours existé, donc il n'est pas Dieu. On a corrigé en disant que le terme de premier-né, il est utilisé dans d'autres passages de la Bible, notamment dans le psaume 89. Premier-né, ça veut simplement dire celui qui est prééminent, celui qui a l'autorité. Il y a plusieurs fois des passages dans la Bible, et c'est fréquent, où l'autorité ou le droit d'aînesse n'est pas donné à celui qui est né en premier, mais à une autre, peut-être le jumeau ou les enfants de Joseph, etc. Le premier-né, c'est-à-dire celui qui est prééminent, celui qui a l'autorité, celui qui est suprême de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il a tout créé. Il ne s'est pas auto-créé, il existe de toute éternité. Il s'est incarné seulement à Noël. Il est venu sur terre parce que nous étions si rebelles que nous ne voulions pas écouter tout ce qu'il avait envoyé avant, et il a dû mourir pour nos péchés. Nous y reviendrons. En lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible. Encore une fois, invisible, c'est pas imaginaire. J'ai fait la remarque que les athées font sans cesse référence dans leur vie pratique à des choses invisibles, les ondes radio, les ondes qui ouvrent la télécommande. Pour être très banal et très trivial, ça utilise des choses invisibles et pourtant bien réelles, les ondes électromagnétiques. Tout ce qui est du domaine spirituel, et là lorsqu'il fait référence au trône, aux souverainetés, aux principautés, au pouvoir, ce sont tous les anges. Dans les cieux, il y a une population spirituelle, réelle. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre ce domaine d'anges, de pouvoir, de dominateurs dans les lieux célestes, des anges. La Bible nous révèle qu'il y a une population angélique qui a été créée par Dieu, par Jésus-Christ, ici nous le voyons, d'anges dont certains se sont rebellés, et à la suite du plus célèbre d'entre eux, Lucifer, Satan, le serpent, le menteur, celui par qui le péché est entré dans le monde. Par orgueil, il a voulu se faire aussi grand que Dieu. Et encore une fois, Satan, ce n'est pas l'opposé de Jésus ou l'opposé de Dieu. Ça s'appelle le manichéisme, le bien et le mal. Ainsi parlait Zarathoustra, je crois qu'il était, il exposait cette conception des choses, que d'un côté il y avait le bien, d'autre côté il y avait le mal. Un peu comme quand on joue à tirer sur une corde, et puis quand il y a un gros gars d'un côté là, qui vient, là, d'un seul coup, tout le monde peut être entraîné, mais si c'est l'autre qui est renforcé, ça repart dans l'autre sens. Et certains expliquent la situation dans le monde comme ce combat entre le mal et le bien. Ils n'ont absolument rien compris à la réalité des choses. On va y revenir aussi. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous savez que vous avez été créé pour Dieu, pour le connaître, pour l'aimer, pour le servir, pour répandre l'annonce de son existence, pour témoigner de lui? Tout le reste, ce sont des détours dans votre vie. Tout le reste, ce sont des choses qui ne vont pas compter en fin de compte. Lorsque, à la fin de votre vie, si vous ne vivez pas pour lui, alors votre vie sera un immense gâchis. Il est votre raison d'être. Il doit être le centre de votre vie. Il est avant toute chose. Donc, tout ce qui existe a été créé par lui et tout subsiste en lui. J'ai rappelé que lorsque des témoins de Jéhovah viennent sonner à votre porte, vous pouvez les amener à ce passage 15 à 20 et leur faire remarquer que dans leur Bible, la traduction du Monde Nouveau, qui est une traduction entre guillemets parce qu'elle est faite pour supporter, soutenir leur fausse doctrine, il rajoute, entre toutes et choses, il rajoute autre. Il est avant toute autre chose, où il a créé toute autre chose. Et c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas admettre sa divinité. Ils ne considèrent pas Jésus comme Dieu. Ils le considèrent comme un petit Dieu. Et vous pouvez leur dire, et là ils seront forcés de le reconnaître, pourquoi est-ce que « autre » est entre parenthèses? Ils diront parce que ce n'est pas dans le texte original. Alors vous leur direz, pourquoi est-ce que vous le rajoutez alors? C'est pas par réalité ou vérité historique, linguistique, c'est par mensonge. C'est pour enlever à Jésus sa divinité. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Une meilleure traduction que le mot subsister, ce serait un néologisme, dire que tout cohère en lui. La cohérence, tout est tenu par lui, tout est tenu en lui. Et on a parlé du fait que lorsqu'on étudie la physique, on sait que des atomes ou des corpuscules chargés d'électricité de même signe se repoussent. Et on a parlé du fait que les scientifiques ne comprennent pas pourquoi les atomes restent des atomes, pourquoi ils n'explosent pas. Le proton qui est composé de plusieurs charges positives devrait exploser. Alors, si vous leur demandez qu'est-ce qui fait tenir les atomes, ils vous parlent de la colle atomique. Je suis sérieux. Ils vous parlent de colle atomique. Alors, si vous les pressez, mais qu'est-ce que c'est que cette colle atomique? Ils ne savent pas vraiment. Ils disent, ouais, on fait de la recherche. Il y a des méons, il y a des quarks, il y a des tas de petites corpuscules qu'ils découvrent au fur et à mesure qu'on construit des réacteurs de plus en plus grands, des accélérateurs de particules. Mais franchement, ils ne savent pas. Maintenant, vous savez, c'est Christ qui tient toute chose. Pourquoi est-ce que notre Terre, cette boule, On a vu les films, maintenant on sait que c'est vraiment une boule dans l'espace. Pourquoi est-ce qu'elle subsiste? Pourquoi elle reste sur un orbite réglé? C'est fantastique. C'est fantastique et je sais que si j'étais plus jeune, je me passionnerais pour la science et la foi. Nous avons eu la joie l'an dernier d'avoir à l'Ariane un jeune Allemand, Sébastien Bauer, qui fait des études de physique avancées maintenant et qui a comme désir de montrer que la science ne s'oppose pas à la foi. J'ai dans les mains un petit prospectus que Scott m'a donné sur un réseau de scientifiques évangéliques. La science peut-elle être neutre ? Il y a une journée de rencontre à Paris au mois de janvier et il y a plusieurs grands scientifiques qui commencent à se réunir pour annoncer que la Bible et la science peuvent faire très bon ménage. Il y a même toute une série de travaux dont l'origine a été les textes bibliques et qui donnent des résultats scientifiques. Vous ne savez peut-être pas, mais la richesse du Moyen-Orient, le pétrole, c'est parce qu'il y a un homme qui était chrétien, qui s'est dit, on parle de poids, de bitume dans la Bible, dans la région du Moyen-Orient, du Proche-Orient, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir du pétrole là-bas. Et il est allé là-bas, il a trouvé du pétrole. Et son nom, vous le connaissez, il s'appelait Rockefeller. C'est synonyme de richesse incommensurable. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit que si c'était dans la Bible, il devait y avoir une réalité historique, scientifique. Et il y a plein de recherches qui sont faites et qui aboutissent parce que, encore une fois, c'est inspiré par Dieu. Dieu a créé le monde par Jésus-Christ et il sait ce qui se passe. Il fait que tout subsiste, tout est cohérent, tout tient. Mais d'un moment à l'autre, il peut relâcher tout et à ce moment-là, c'est la fin du monde tel que nous le connaissons. À l'époque, on avait du mal à imaginer la fin des temps, puisqu'on sait que ce ne sera pas par le déluge que la terre périra, mais par le feu. Et maintenant qu'on connaît la puissance qui est relâchée dans une explosion atomique, on se dit qu'en fait, c'est vrai que dès que Jésus relâche les choses, ça pourrait être terrible. Il est... Avant toute chose, tout subsiste en lui. Et puis, il passe à quelque chose de très important. Il est la tête du corps, il est la tête de l'Église. Ça aussi, ça peut nous entraîner dans une méditation sur le rôle de l'Église, le fait de savoir qui dirige l'Église. Alors, le mot « Église », dans notre langage courant, c'est un bâtiment. On dit, tiens, ce serait bien d'aller en Provence voir des petites églises pour la messe de minuit. Non, l'église, ça vient du mot ecclesia, ça veut dire ceux qui sont appelés, ceux qui sont sortis par appel, ceux qui viennent de l'ensemble des hommes, mais qui ont répondu à l'appel de Christ à venir à lui. Et l'Église, c'est pas un bâtiment, l'Église, c'est vous et c'est moi. Ce sont l'ensemble des croyants de par le monde qui reconnaissent en Jésus-Christ le Créateur, le Fils de Dieu, le Sauveur qui est mort sur la croix pour leurs péchés. Ça, c'est l'Église. C'est pas un bâtiment. Et l'Église, on parle de l'église locale qui a plusieurs manifestations, dont cette assemblée Pas les lieux, les locaux. On remercie le Seigneur pour les locaux qu'il nous donne, qui sont mieux que ce qu'on aurait pu jamais espérer pour l'instant. Et on veut se concentrer sur l'Église, c'est-à-dire sur vous, sur moi. Il y a l'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les croyants de par le monde, de toutes les langues, de toutes les nations. Et c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est la tête du corps. Et c'est toujours dramatique lorsqu'un homme essaye de prendre cette place. Il y a peut-être parmi vous ou parmi nous d'anciens ou d'anciens catholiques ou même encore peut-être des gens qui veulent toujours aller à l'Église. Mais l'idée qu'il y avait un homme qui était à la tête de l'Église, le pape, c'est anti-biblique. Ça n'a aucun lieu d'être. On sait qu'ils utilisent faussement un passage de Matthieu 16, lorsque Jésus dit à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour ne prévaudront pas contre elle, Matthieu 16, 18. En fait, la pierre sur laquelle il va bâtir son église, c'est pas Pierre le pape. Il y a un jeu de mots, tu es Petra, mais sur cette pierre, la grosse pierre dont il est question, c'est pas le petit apôtre Pierre qui comme moi s'énervait quand il fallait pas. C'était la déclaration que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie. Ça, c'est la grosse pierre. Et il disait ça dans un cadre bien, bien spécial. Il était à Césarée de Philippe. J'ai eu le privilège de voir ce lieu. Et derrière l'endroit où il parlait, il y a une colline, enfin, plutôt un grand rocher. Et donc, il était il faut voir toujours le contexte. Il parlait, il, derrière lui, il y avait ce rocher célèbre. Il parlait du rocher. Pierre, ça veut dire petite pierre. Mais la grosse pierre sur laquelle Jésus fonde son église, c'est pas le pape, c'est le fait que lui est le Fils de Dieu, que lui est le chef de l'église. Et c'est toujours le début de la fin lorsque dans un mouvement, dans une dénomination, la personne devient prépondérante au point que c'est plus Jésus-Christ qu'on cite, mais c'est le fondateur du mouvement. Où on lit pas la Bible, on lit les livres qu'a écrit le fondateur du mouvement et au détriment de la Bible elle-même. Que Dieu préserve Calvary de Chapelle de ce terrible problème. Chuck Smith est l'homme que Dieu a utilisé dans les années 60 pour causer ce réveil parmi les hippies qui continuent à porter du fruit par justement un enseignement de la parole et la centralité de Christ. Mais il y a toujours le danger chez les gens de mettre quelqu'un sur le trône. Je sais que je ne cours pas ce danger avec vous parce que vous me côtoyez, vous me connaissez, vous savez que j'ai rien. Je suis ici pas parce que je mérite d'être, mais c'est simplement parce que le Seigneur me demande d'annoncer sa parole que je le fais. Mais je ne me présente pas à vous en tant que modèle de sainteté, modèle d'avancée dans la foi. Je suis comme vous, quelqu'un qui cherche à avancer avec le Seigneur. Mais encore une fois, ça doit être un signe, ça doit être ce papier qui semble un peu bizarre si on parle plus de Chuck Smith que de Jésus-Christ. Vous pouvez venir me voir et me dire, attends, il y a un problème là. Tu parles de Chuck, mais tu parles plus de Christ. Ça commence par la même lettre, mais c'est pas suffisant. Si Si jamais vous sentez ça, si on commence à parler plus d'un homme que de Christ, alors il y a un problème. Et venez m'en parler, venez me voir si vous sentez ça. Si jamais ça à Dieu ne plaît, ça a commencé. Parce que c'est toujours le début de la fin. Et l'Église catholique est si large en nombre, mais si loin du potentiel que ce nom pourrait avoir si Christ était vraiment la tête. Et lorsque je dis ça, je ne veux pas seulement pointer du doigt nos frères et sœurs catholiques qui croient en Christ et au salut par sa mort sur la croix, à la réalité de son Esprit Saint, etc. Est-ce que Christ est le chef? Est-ce qu'il est la tête de notre Église? Est-ce que c'est lui qui dirige toutes choses? Est-ce que c'est lui qui inspire ma vie? Ou est-ce que je me fonde sur ce que font les gens autour de moi pour dire, bon, ben, j'en fais un peu plus que les autres, c'est déjà bien? Est-ce qu'il est vraiment, comme la suite le dit, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier? Est-ce qu'il est vraiment le premier dans l'Église? Est-ce qu'il est le premier dans ma vie? Au passage, l'expression « le premier-né d'entre les morts », certains disent « mais là, il y a un problème, parce qu'on sait qu'il y a eu des personnes qui ont été ressuscitées avant Jésus-Christ ». Jésus-Christ lui-même a ressuscité Lazare et d'autres personnes. Les prophètes Élie et Élisée ont ressuscité des personnes de la mort. La différence, c'est que toutes ces personnes sont ressuscitées une fois, mais elles sont mortes une seconde fois. Jésus-Christ est le seul qui ait été ressuscité d'entre les morts et qui soit vivant aujourd'hui. Nous n'adorons pas un Dieu qui a fait des grandes choses dans le passé, un Dieu passé, un homme qui a été formidable. Nous adorons le Dieu vivant. Nous adorons en esprit et en vérité Jésus-Christ qui est mort d'entre les morts et qui est vivant, ressuscité. Il est le premier à avoir revêtu ce corps de résurrection que nous revêtirons un jour si nous persévérons avec lui. Nous reviendrons aussi à ce sujet. Ce corps qui lui permettait de franchir des murs. Et là encore une fois, les détracteurs au nom de la pseudo-science vont dire « voyez bien que c'est des imbécilités. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un traverser un mur ? Bien sûr que non, c'est pas possible. » Et pourtant, lorsque ces mêmes scientifiques font leurs recherches dans leurs grands accélérateurs de particules, ils s'aperçoivent qu'en fait la matière c'est du vide. Du vide et du vide. Et encore plus de vide. Et quelques petits éléments qui tournent très vite. Et quand on regarde ces petits éléments qui tournent très vite, c'est encore du vide. Il y a encore à l'intérieur des petits éléments qui vont très très vite. Et en fait, ce qui nous paraît être de la matière, quelque chose d'impénétrable, ce ne sont pas des choses matérielles, ce sont des choses électromagnétiques. Ce sont des champs qui se repoussent. Si ma main ne peut pas traverser ce pupitre, c'est pas parce que il y a plein de matières qui se heurtent. Non, c'est parce qu'il y a des champs électromagnétiques qui s'opposent les uns aux autres. Et lorsqu'on a cette réalité scientifique en tête, que du vide rentre dans du vide, ça semble pas si difficile à imaginer que ça. Et Dieu qui a fait toutes choses, qui contrôle, qui connaît ces champs, ces phénomènes, que la science recherche en permanence, essaye de comprendre, Dieu peut facilement changer ses lois, annuler certains types de réactions et faire que ce corps de résurrection, il ne va plus vieillir, ce corps de résurrection, il va plus être fatigué. Ce sera un corps qui pourra prendre des aliments d'après les descriptions que l'on a. Et là aussi, je vous invite à lire la parole. Il y a plein d'éléments que vous pouvez déjà connaître sur le futur, sur le corps de résurrection. On ne sait pas tout, mais Dieu nous a révélé certaines choses qu'il veut que nous connaissions s'il les a révélées. Les choses qu'il n'a pas révélées, en général, c'est celles-là qu'on veut savoir. On oublie tout ce qui est disponible, tout ce qui est l'objet de notre recherche pour se poser des questions farfelues du genre « Si Dieu est si puissant que ça, est-ce qu'il peut créer un rocher si lourd qu'il ne pourra pas le lever ?» Ça, c'est le genre de questions que les philosophes se posent. Mais savoir quelle sera la nature de notre corps après la résurrection, ça, ils l'ignorent. Et pourtant, Jésus-Christ a été le premier-né d'entre les morts. Il est en tout le premier. Ça aussi, c'est un signe de sa réalité. Pourquoi est-ce qu'on se réunit ici le dimanche matin et dans les réunions en semaine? L'Église, c'est pas une organisation. L'Église, c'est un organisme vivant dont Jésus est la tête. Alors vous allez me dire, oui, mais pourtant il y a une assemblée générale, il y a des membres. Alors c'est vrai que nous ne vivons pas dans l'abstrait, nous vivons dans un monde, un environnement juridique, administratif, et qu'on nous demande d'être constitués en association loi de 1905, et qu'en vertu de ça, il faut avoir des assemblées générales de temps en temps, il faut avoir des statuts, etc. Mais l'Église, c'est pas l'association 1905. C'est une de ces manifestations juridiques pour pouvoir obéir les lois de la terre, mais l'Église, encore une fois, c'est un ensemble de personnes qui ont été sorties de la multitude, qui ont été appelées à connaître Dieu. Et quels sont les buts de l'Église? Pourquoi est-ce qu'on se réunit? Première chose, c'est pour louer, glorifier, adorer Dieu. Le vrai Dieu vivant, louer le Seigneur. Plusieurs fois dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous avons eu, on en a parlé pour Myriam de cette retraite à la montagne. Nous avons pu nous promener un peu dans la beauté de la création de Dieu avec cette neige à ce moment-là. On a vu les chamois, on a vu les arbres, on a vu les collines, on a vu le lac gelé. Et cette création, quelque part, Romains 8 nous dit qu'elle souffre des douleurs causées par le péché, mais en même temps, cette création, elle glorifie Dieu. Ce qui me frappe toujours, c'est de penser que quand on arrive dans un endroit un peu éloigné comme ça, où personne pratiquement ne met les pieds, on s'aperçoit de sa grande beauté et on se dit, quel gâchis. Si je ne suis pas là, personne n'apprécie. Non, Dieu apprécie sa création. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ se régale du lac de Fenestre, même quand on n'est pas là, même quand il n'y a personne pour le voir. La création loue l'Éternel. Nous chantons, j'aime beaucoup ce chant, « Si nous ne louons l'Éternel, les pierres vont le faire. Les arbres de la forêt frappent des mains. » La création, de toute la création, malheureusement, il n'y a que l'homme qui se soit rebellé contre Dieu. Le summum de sa création, c'est vous, c'est moi, c'est l'homme. Est-ce que vous le réalisez, ça? Il nous a fait à son image. Et tout ce que nous avons trouvé le moyen de faire, c'est de dire, toi, tu restes où tu es pas Dieu, je te reconnais pas, laisse-moi vivre ma vie tranquille. Et pourtant, c'est lui qui vous a créé pour lui. Notre premier but, c'est de le reconnaître, c'est de louer l'Éternel. C'est ce que nous voulons faire le dimanche matin pour rentrer en communion avec lui, c'est avoir un temps ininterrompu de louange. Il ne s'agit pas de mettre en avant des personnes, il ne s'agit pas de... Et si je suis arrivé ce matin, c'est parce que je crois que Tonio n'arrivait plus à chanter, il a des... Prions pour sa voix. D'habitude, Raphaël peut le soutenir. C'est pas pour nous mettre en avant, c'est pas pour dire « écoutez comme on chante bien ». Chante très mal, je dirais rien de Tonio en ce moment, le pauvre. Ce qui compte, c'est que nos cœurs loue l'Éternel. C'est qu'on se dise, il est merveilleux, c'est vrai, et que les paroles nous fassent du bien, parce qu'elles sont la vérité. D'entendre la vérité, ça fait du bien. La deuxième chose, c'est pour être construit, c'est pour être équipé, c'est pour grandir ensemble. Alors il y a des personnes qui sont davantage impliquées dans le travail quotidien de l'Église. Il y a ce qu'on appelle des ouvriers à plein temps, les pasteurs, les missionnaires. Mais nous sommes tous des ouvriers à plein temps pour le Seigneur. C'est une mauvaise expression. Ça vient de l'hérésie, de la séparation du clergé et du peuple. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous un peuple royal appelé à servir Dieu, à le glorifier. Il n'y a pas des saints sur un piédestal, des pasteurs qui font du travail à plein temps, qui sont plus près du Seigneur. C'est faux. C'est un mensonge. Tous, autant que nous sommes, nous pouvons être aussi près du Seigneur que nous le souhaitons. Si nous passons du temps, si nous lisons sa parole, si nous nous consacrons à lui, à penser à lui. Être édifié. Alors c'est vrai que le rôle des pasteurs, des enseignants, des apôtres, des prophètes, suivant les expressions que l'on trouve dans Éphésiens. On peut regarder ensemble dans Éphésiens 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints, pour équiper tous ceux qui croient au Seigneur. Ce n'est pas pour perfectionner Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Le perfectionnement des saints, ça veut dire équiper, ça veut dire réparer et mettre au travail tous ceux qui viennent à Christ. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification, c'est-à-dire la construction du corps du Christ. D'abord, nous louons le Seigneur, ensuite nous grandissons. L'annonce de la parole, c'est destiné à vous fortifier, c'est destiné à vous équiper à toute œuvre bonne. C'est pour que vous puissiez annoncer la vérité autour de vous, la vivre et la mettre en valeur. Mais le troisième but, c'est pour ça qu'on reste là après qu'on soit sauvé, c'est pour témoigner au monde de la réalité de l'amour de Dieu en Christ. Ça, ce sont les buts de l'Église. C'est de vivre ainsi. C'est pas de construire de grands bâtiments pour le plaisir d'avoir de grands bâtiments. L'Église en Arizona, ils souhaitent bâtir un sanctuaire plus grand. Ce n'est pas pour la gloire de Pat Lazovitch, c'est pour qu'il ait moins de travail à faire. Au lieu de prêcher 4 fois, il pourrait prêcher peut-être que 2 fois s'il avait des locaux plus grands. L'Église doit louer le Seigneur, grandir harmonieusement pour pouvoir témoigner de la réalité de Dieu et de son amour autour de nous. Trop souvent, même parmi les chrétiens, l'Église s'est vue comme un espèce de confort. On a réussi dans certains domaines, on a un travail, on a une famille, on se dit, tiens, aller à l'Église, ça ne ferait pas de mal, ça arrondirait les angles, c'est bien de donner un peu de dimension spirituelle aux enfants. Mais le but, ce n'est pas d'être un confort supplémentaire. Ce n'est pas pour avoir une meilleure qualité de vie. Non, l'Église, si vous êtes vraiment chrétien, ça devient votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes là tout 24 heures sur 24 dans les locaux où on se réunit. Ça veut dire que 24 heures sur 24, vous êtes consacré à adorer Dieu, à vous bâtir, à vous équiper et à témoigner. Et notre société est devenue une société axée sur le confort, axé sur la sécurité, axé sur moi d'abord. Et même dans l'Église, nos préoccupations peuvent être très égoïstes. Ça peut être ma maison, ça peut être m'occuper de mon chez-moi pour que ce soit agréable et que je me sente bien. Et encore une fois, ce n'est pas pour mettre ces choses, les critiquer. Tout est une question de priorité, tout est une question de vision. Dieu peut vous donner une belle maison, il nous a donné un bel appartement, pas loin de l'église. Il peut bénir, Dieu veut bénir, nous le savons. Nous n'avons pas honte de le dire. Ça ne veut pas dire que quand il ne bénit pas, il y a nécessairement une culpabilité de notre part. Dieu est souverain, il bénit comme il veut, quand il veut, où il veut et de la façon dont il veut. Mais si nous voulons suivre Christ, nous devons peut-être nous mettre en question. Est-ce que, dans ma vie, est-ce que je cherche mon confort, mon succès personnel avant tout, ou est-ce que je veux le succès de Jésus-Christ? Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices, entre guillemets, pour le servir? Est-ce que je veux m'installer quelque part et être confortable pour le restant de mes jours? Est-ce que je suis prêt à aller là où il m'appelle? C'est toujours encourageant de voir des jeunes comme Myriam qui agissent, qui prennent des décisions, mais qui recherchent toujours la direction de Dieu pour leur vie. Et je sais que parmi nous, il y en a beaucoup qui sont dans ces moments où on se dit « je ne suis pas sûr de vouloir faire ceci, est-ce que je continue, est-ce que je ne continue pas ?» Alors on essaye de vous encourager avec l'aide de Dieu, de penser que si vous avez déjà fait pas mal d'efforts dans une direction, autant terminer et avoir un diplôme. Mais est-ce que vous êtes prêt à dire « bon, mais Seigneur, c'est vraiment toi qui dirige ma vie. Si tu veux que je quitte mon travail pour faire telle chose, si c'est vraiment toi qui me parles, et je vais m'en assurer en priant, en jeûnant, en parlant à des gens que je respecte dans la foi, en priant avec eux, en jeûnant avec eux, est-ce que tu veux que je fasse des choses un peu radicales? Ce qui tue notre monde, c'est que l'Église est silencieuse. La France est dans l'état où elle est, et le monde occidental est dans l'état où il est, parce que l'Église n'est pas l'Église que Dieu veut. L'Église est devenue un organisme qui peut être grand, qui peut être influent, mais qui cherche surtout à donner du confort aux hommes. Jésus a dit... Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Est-ce que je veux suivre Jésus-Christ? Ou est-ce que je veux suivre Ikea? Est-ce que je veux me contenter du rêve de vie que les médias me présentent? Toujours plus de confort. J'aime bien aller à Ikea. Je vous assure, c'est pas cher. Il y a des choses très chouettes. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi, mais est-ce que je lis plus le catalogue d'Ikea que ma Bible? Il y a quelques années, alors que j'étais nouveau chrétien, je m'étais aperçu, je voulais acheter mon premier ordinateur, et tout ce que je faisais, c'était de lire des catalogues d'ordinateurs. Et puis le Seigneur m'a dit, mais ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. C'est subtil et c'est bien d'avoir du confort, d'avoir une maison agréable où les gens peuvent être encouragés, confortés. Mais est-ce qu'on est vraiment sérieux? Est-ce qu'on est prêt à laisser tomber là où on est pour partir ou là où Dieu nous appelle? Est-ce qu'il est vraiment le chef? Est-ce qu'il est en tout le premier? Alors là, je vais faire mon expertise de linguiste, en grec, le mot « tout », j'ai regardé, ça veut dire « tout ». C'est tout bête, mais c'est tout vrai. Est-ce qu'il est le premier en toute chose? Ou est-ce que j'ai le dimanche matin, certains jours de la semaine, Et je sais comment c'est. On peut être ému, on peut être touché par un message le dimanche. Et puis le lundi, ça repart dans le train-train, dans les soucis quotidiens. On est le nez dans le guidon. The nose on the grinding stone. C'est parlant aussi en anglais, ça veut dire le nez sur la meule. On se fait aiguiser le nez, là, on est tellement près du travail qu'on ne voit rien de ce qui se passe. Et ça, ça nous guette tous. On est tellement occupés, même par le service de l'Église, qu'on voit pas, on prend pas de recul, on prend pas le temps de prier, on prend pas le temps de voir la beauté de la création qui loue l'Éternel. Je parlais à Pat et je lui disais, il me demandait comment ça va, je lui dis, oh, j'ai l'impression que il me faudrait une journée de plus par semaine pour arriver à tout ce que je veux faire. Et c'est ridicule parce que Dieu nous a donné juste le temps qu'il faut, juste si nous suivons ses priorités. Il est le commencement, il est la tête du corps de l'Église. Jésus dirige ce corps par sa parole et par le ministère du Saint-Esprit. Acte 20, 32, c'était le conseil que Paul donnait aux anciens de l'église d'Éphèse à son départ. Il leur disait, « Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » Nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Si vous me dites que vous lisez tel livre de tel auteur, de tel pasteur responsable de tel mouvement, je m'inquiète toujours de savoir ce que vous lisez. Si vous me dites « Je lis la parole de Dieu », je me dis « Allez-y, continuez. » Parce qu'avec l'aide de son Esprit Saint, avec l'aide de l'Esprit, vous allez grandir, vous allez être nourri, vous n'allez pas aller sur de fausses voies, vous allez connaître le vrai billet. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Le mot plénitude, ça veut déjà dire tout ce qui peut exister, tout ce qui est là. Mais là, il utilise un espèce de pléonasme, il veut être redondant, il veut vraiment dire qu'il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Il y a un parallèle dans Ésaïe 53, 10, où il est dit que Dieu le Père, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'était des volontés de Dieu, ça a été d'abord de faire souffrir Christ, mais il a plu aussi au Père de mettre en lui, de faire habiter en lui. Habiter, c'est de façon permanente, de toute éternité, il est Dieu. Toute plénitude divine, il est Dieu, aussi bien que le Père, aussi bien que l'Esprit Saint. Et puis, il a plu à Dieu de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. L'homme s'est rebellé contre Dieu, il a fallu que ce soit celui qui avait été offensé, et ça c'est absolument stupéfiant de réaliser que celui qui a eu affaire à des gens qui se sont éloignés de Dieu, de lui, qui se sont rebellés contre lui, c'est lui qui a fait le premier pas, par amour. Il est venu pour réconcilier. C'est le rôle de Jésus-Christ qui vient et qui fait la paix, qui permet que la paix soit faite. Ne pas croire que ce verset prêche l'universalisme, c'est-à-dire que tout le monde va être sauvé, qu'il n'y a pas de décision à prendre. Non, il a permis que tout soit réconcilié avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est pas magique le sang de Jésus. C'est pas comme parce que sinon les soldats romains qui enfonçaient des clous avec des énormes marteaux et le sang qui giclait, ça aurait dû les sauver. Non, c'est pas ça du tout. C'est le fait que il s'est offert en sacrifice. Il a pris à ma place la mort que je mérite par mon péché. Et c'est en Christ qu'il a fait ça. lui en qui habite toute la plénitude, il s'est laissé faire pour mon salut, pour votre salut. Et il a fait la paix par lui. Nous pouvons avoir la paix avec Dieu. C'est le titre d'un livre de Billy Graham, un de ses premiers livres, « La paix avec Dieu ». Il n'y a pas de chose plus précieuse que d'avoir la paix avec Dieu. Toute la richesse du monde ne peut pas se comparer au fait d'avoir la paix avec Dieu. Dieu nous a créés, Jésus-Christ nous a créés par lui, pour lui. Si nous sommes en rébellion contre lui, notre vie ne peut pas fonctionner. Notre vie ne peut pas nous apporter cette plénitude, ce sentiment profond de satisfaction en toute chose. Si vous voulez, c'est quelques versets, vous pouvez les mémoriser, c'est bon à connaître. Lorsque d'autres vous parlent des fausses doctrines, vous avez ces éléments. Tout a été réconcilié avec Dieu. Et penser qu'à l'universalisme, dire que bon, bah, ça y est, c'est dit, tout a été réconcilié, ça veut dire, ça ne tient pas la route, ça voudrait dire que, à la limite, Christ n'avait pas besoin de mourir, que il ne suffit, peu importe le péché qu'on peut commettre. On reviendra dans la lettre de Paul aux Colossiens sur la persévérance des saints. Mais nous allons nous arrêter là pour l'instant. Un hymne merveilleux, des vérités qui sont bonnes à entendre et à méditer, à mémoriser. La tête du corps de l'Église, le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.